France Culture.
Et nous retrouvons Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. In extremis, à la veille des vacances parlementaires, les députés ont entériné ce matin la réforme du scrutin municipal pour Paris, Lyon et Marseille, actant au passage, on le verra, une fracture inédite entre le Premier ministre et le Sénat. À suivre également la baisse des financements en faveur du climat en France, du jamais vu depuis 10 ans. Nous serons à Londres pour détailler un accord de dissuasion nucléaire entre la France et le Royaume-Uni. On se demandera comment pourrait s'organiser la reconstruction en Ukraine. Enfin, on parlera de la nouvelle poussée de fièvre de Donald Trump sur fond d'ingérence étrangère. Comme une illustration de plus de cette vie parlementaire plus que jamais chaotique, la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille a été adoptée ce matin avec un ultime vote des députés. La veille pourtant, les sénateurs, habituellement fidèles alliés de l'exécutif, avaient rejeté le texte, dénonçant un tripatouillage électoral mais aussi un passage en force, après que le gouvernement a donc choisi d'activer la procédure du dernier mot qui donne la primeur à l'Assemblée nationale. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
François Bayrou avait assuré qu'il ne pouvait imaginer faire adopter ce texte sans compromis entre les deux chambres, en vain.
Effectivement, on a assisté à un jeu de ping-pong, un dialogue de sourds entre ces deux assemblées. Assemblée nationale pour cette réforme, Sénat contre, échec de la commission mixte paritaire. Pour finir donc ce matin avec le dernier mot des députés, chacun est resté sur ses positions. Et c'est finalement une majorité assez originale qui l'a emporté dans l'hémicycle, constituée de la France insoumise, de Renaissance, du Modem, des Républicains et du Rassemblement national, qui par la voix de Gisèle Louis a défendu le texte une dernière fois.
Aujourd'hui, nous avons, chers collègues, l'occasion de mettre fin à ce régime dérogatoire. En rapprochant les électeurs parisiens, marseillais et lyonnais du choix de leur maire, cette réforme est une avancée démocratique indéniable.
Résultat, la proposition de loi du député Renaissance défendue par le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, est approuvée en lecture définitive par 112 voix contre seulement 28. Parmi les opposants au texte, Léa Balage-El-Mariki, porte-parole du groupe écologiste et social.
Cela fait plusieurs mois que nous vous expliquons que cette réforme du mode de scrutin n'est ni faite ni à faire. Vous entêtez au mépris des principes de loyauté du débat politique parce que vous vous couperiez une jambe plutôt que de renoncer au deal électoral scellé avec Madame Dati.
Et c'est l'ombre du tripatouillage électoral qui a plané tout au long de ces débats. Une réforme du mode de scrutin moins d'un an avant une élection. Rachida Dati, membre du gouvernement, candidate à la mairie de Paris, est ouvertement favorable à ce texte. C'est la plus connue, la plus médiatisée de ceux qui briguent la capitale. Cette réforme lui permettrait de présidentialiser en quelque sorte l'élection sur son nom. Sa rivale historique Anne Hidalgo, maire de Paris, fustige, je cite, « un coup politique de très bas niveau ». Mais les opposants au texte n'ont pas dit leur dernier mot. La gauche, hors LFI et la droite sénatoriale, ont promis de saisir le Conseil constitutionnel.
Merci Antoine Maret. Alors derrière cette réforme du mode de scrutin, vous le disiez, beaucoup entrevoient déjà les ambitions d'une certaine Rachida Dati à la mairie de Paris. Mais en attendant, la ministre de la Culture s'est donné une autre mission, faire adopter coûte que coûte la réforme de l'audiovisuel public. Comprenez la fusion au sein d'une même holding de Radio France, France Télé, l'INA et France Média Monde. Et sa détermination, sinon son acharnement, est telle que la ministre a obtenu que ce texte rejeté par les députés en première lecture et qui aurait dû en théorie être examinés après l'été reviennent déjà au Sénat aujourd'hui et demain pour un examen au pas de charge juste avant les vacances parlementaires. On ne s'habitue jamais à ce que nous apprenons, déclaration ce matin du délégué général d'Emmaüs France, alors que 12 nouvelles victimes de violences sexuelles, dont 7 mineurs, ont été identifiées par le cabinet spécialisé EGAE, un an après les premières révélations concernant l'abbé Pierre, l'ex-figure de la défense des plus démunis, devenu après sa mort un prédateur sexuel visé par 45 accusations. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour toutes ces victimes, Emmaüs et la Conférence des évêques de France ont décidé conjointement la mise en place d'un fonds de réparation financière. Celui-ci devrait être opérationnel à compter du mois de septembre. Sait-on, Julie, comment va fonctionner ce dispositif?
Eh bien, chaque victime ayant témoigné auprès du cabinet EGAE sera orientée vers la commission reconnaissance et réparation, la CRR, cette instance mise en place par la Commission des évêques de France après les révélations en 2021. 2021 des violences sexuelles commises dans l'Église catholique depuis les années 50. Après instruction de leur dossier par la CRR, les victimes se verront proposer une indemnisation allant de 5 000 à 60 000 euros. C'est donc le même barème que celui utilisé pour les victimes de pédocriminalité dans l'Église, déterminé en fonction des violences subies et des conséquences pour la victime. Ce dispositif de réparation sera entièrement financé par les fonds propres du mouvement Emmaüs et ceux de la Conférence des évêques de France. Aucun don versé au mouvement Emmaüs ne servira à financer ces réparations, insiste Emmaüs France. Et la responsabilité sera donc partagée avec la Conférence des évêques de France, du moins à partir de 1954, date à laquelle l'abbé Pierre est associé tant à Emmaüs qu'à l'Église.
Et puis à ces réparations financières, Julie, s'ajoutent d'autres types de réparations.
Oui, Emmaüs France a souhaité mettre en place des dispositifs de soutien et d'accompagnement aux victimes qui prennent la forme d'entretiens avec des psychologues, de groupes de parole organisés par le cabinet EGAE. Chaque victime s'est aussi vue proposer une rencontre avec les instances dirigeantes du mouvement. Emmaüs France souhaite également poursuivre ce travail de transparence à travers une mission confiée depuis février dernier à la commission indépendante d'études sur les violences commises par l'abbé Pierre, hébergée par l'école des hautes études en sciences sociales. Cette enquête sociologique et historique a pour but d'analyser les mécanismes qui ont permis à l'abbé Pierre de commettre des violences pendant des décennies en toute impunité. Son rapport est attendu début 2027.
Merci Julie Paco. Depuis ce matin, il est strictement interdit de boire l'eau du robinet dans 12 communes des Ardennes et 4 de la Meuse. Seule son utilisation pour la cuisson ou l'hygiène est autorisée. L'arrêté préfectoral a été pris la semaine dernière après la détection de taux anormalement élevés de PFAS, ces polluants éternels, invisibles mais cancérigènes. Sale temps, décidément, pour l'environnement. Les financements liés à la lutte contre le réchauffement climatique en France ont diminué en 2024, alerte ce matin l'Institut de l'économie pour le climat. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle là d'une baisse de seulement 5%, 102 milliards en 2024 contre 108 l'année précédente, sauf que jamais ces investissements publics et privés n'avaient connu de baisse depuis 2015, et puis surtout, les exemples ne manquent pas aujourd'hui pour se convaincre qu'il faudrait faire a priori tout le contraire. Quels sont donc les secteurs, Véronique, les plus touchés par ces diminutions?
Il y en a trois, l'immobilier bâtiment, les transports et les énergies renouvelables. Trois secteurs cruciaux pour la décarbonation de notre économie, victimes tous les trois à la fois des baisses de certaines subventions, de changements de réglementation et bien sûr de la situation économique. Les reculs s'expliquent aussi par des revirements dans les politiques publiques, dans une économie française affaiblie par la dette. Dans l'immobilier, secteur particulièrement en souffrance, le recul s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt qui ont explosé en 2023, ce qui a eu pour effet bien de limiter, de freiner le nombre de projets de construction et aussi d'achats de biens immobiliers qui sont, explique l'Institut de l'économie pour le climat, qui sont l'occasion de faire de la rénovation énergétique. Dans le secteur des transports, l'achat de voitures bas carbone marque aussi le pas en 2024 avec presque 3% d'immatriculation de véhicules neufs en moins par rapport à 2023, légère baisse qui concerne surtout les véhicules des particuliers. Et puis dernier secteur, les énergies renouvelables. L'Institut de l'économie pour le climat explique que l'éolien en mer a connu un creux en 2024 après de nombreux raccordements en 2023. En revanche, les investissements dans les réseaux électriques ont progressé pour mieux adapter ces réseaux aux aléas climatiques. Dans ces trois secteurs qui pèsent, vous l'avez compris, très lourd dans les investissements climatiques, il pourrait y avoir du mieux quand même cette année. Pour 2025, l'Institut prévoit une légère remontée du fait d'une reprise des investissements dans l'éolien offshore, donc en mer, dans les ventes de voitures électriques, notamment grâce au leasing social, et puis toujours de nombreux investissements dans les réseaux électriques.
Merci Véronique Robérod. Plus qu'une entente amicale, une alliance militaire à l'occasion d'un sommet bilatéral à Londres, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Keir Starmer doivent acter aujourd'hui un rapprochement spectaculaire et même inédit en stipulant que les deux seules puissances nucléaires en Europe occidentale pourront désormais coordonner leurs moyens respectifs tout en conservant chacune leur souveraineté pleine et entière quant à la décision d'engager ou non le feu. Gaëlle Joly, bonjour.
Bonjour.
Correspondante de France Culture à Londres. Dans le détail, comment cette coopération va-t-elle fonctionner et surtout à quelle occasion ?
Alors, ce que vont déclarer tout à l'heure, main dans la main, la France et le Royaume-Uni, c'est qu'ils n'envisagent pas de menace extrême sur la sécurité de l'Europe qui ne susciterait pas une réponse rapide de leur part. En clair, face à la menace russe et au risque d'un désengagement américain, les deux puissances nucléaires s'engagent à aller au secours d'un partenaire européen attaqué. Alors, qui est concerné ? L'Ukraine pourra-t-elle bénéficier de ce parapluie nucléaire ? La formule reste assez vague, conformément au principe de dissuasion, mais une source précise qu'un groupe de supervision nucléaire sera établi et co-présidé par l'Élysée et le cabinet office. La décision ultime restera entre les mains de chaque nation, mais pourra être coordonnée, un message de fermeté qui sera certainement scruté de près à Moscou, alors que Paris et Londres s'affichent désormais comme le pilier de la défense européenne.
Merci Gaëlle Joly en direct de Londres. Une nouvelle offensive d'ampleur en Ukraine. La nuit dernière, l'envahisseur russe a lancé pas moins de 400 drones et 18 missiles, notamment sur la capitale Kiev. Bilan au moins 2 morts. La veille déjà, l'armée du Kremlin avait mené sa plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit. Puis le mois de juin a enregistré un nombre record de morts et de blessés civils, prévient encore ce matin l'ONU. C'est donc dans ce contexte d'intensification des frappes que le secrétaire d'État américain doit rencontrer aujourd'hui son homologue russe en marge de la réunion des chefs de diplomatie des pays d'Asie du Sud-Est. De leur côté, Emmanuel Macron et Keir Starmer, on vient d'en parler, participeront à une réunion en visioconférence avec notamment Volodymyr Zelensky, mais aussi la première ministre italienne, le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles. Alors, parler de reconstruction, tandis que l'Ukraine reste soumise aux frappe constante de la Russie, que les pourparlers promus par Washington pour mettre fin au conflit n'ont pas progressé, peut sembler étrange. En réalité, cette conférence est déjà la quatrième du nom, puisque l'Ukraine affronte en ce moment sa quatrième année de guerre. L'objectif, c'est de convaincre les investisseurs, en particulier privés. À ce titre, Fabien, peut-on mesurer aujourd'hui l'implication du vieux continent ?
Alors oui, la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine vient d'annoncer une enveloppe globale de 10 milliards d'euros, des fonds essentiellement européens, débloqués par les États membres, mais aussi par l'Union européenne, qui a notamment lancé dès 2022 une plateforme de donateurs, qui s'est aussi associée à des salons baptisés Rebuild Ukraine, reconstruire l'Ukraine, organisés annuellement depuis 2023. L'objectif, c'est bien d'encourager le secteur public à participer aussi à l'effort de reconstruction. Les entreprises du secteur énergétique en particulier, c'est là que les besoins seront les plus importants, à la fois du fait des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes, mais aussi de la richesse du sous-sol ukrainien qui rapportera sans doute de l'argent frais quand la guerre sera terminée et qu'il pourra être exploité. Et puis il y a aussi bien sûr les secteurs du bâtiment, de la gestion de l'eau et des déchets, ou encore tout ce qui concerne les routes et les infrastructures de transport. La Commission européenne chiffrera sans doute de son côté plus précisément sa contribution dans son prochain budget pluriannuel 2028-2034 qu'elle présentera la semaine prochaine. Au total, elle estime à près de 500 milliards d'euros le montant financier total de l'effort de reconstruction nécessaire en Ukraine sur une durée d'au moins 10 ans.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Turpitude et Trumpitude, ou quand Donald Trump instrumentalise les droits de douane à des fins idéologiques. Hier, le président américain fait savoir qu'il imposerait à compter du 1er août des taxes punitives de 50% sur tous les produits importés aux États-Unis en provenance du Brésil, des taxes distinctes des droits de douane imposés spécifiquement à certains secteurs. Une lettre a été transmise donc en ce sens au président Lula, et dans le même temps, le milliardaire républicain a également exprimé son soutien à l'ex-chef d'État Jair Bolsonaro, actuellement jugé pour tentative de coup d'État. Une manière, en somme, Valérie Crova, de lier sa guerre commerciale à la situation judiciaire de son allié populiste d'extrême droite.
Une honte internationale, une chasse aux sorcières qui doit cesser immédiatement. C'est en ces termes que Donald Trump a commenté les poursuites contre Jair Bolsonaro. L'ancien chef d'État brésilien est jugé dans son pays pour avoir fomenté un coup d'État dans le but de se maintenir au pouvoir après les élections de 2022. Il encourt jusqu'à 40 ans de prison, inacceptable pour le locataire de la Maison-Blanche, qui a donc brandi la menace d'imposer des droits de douane à 50% aux produits brésiliens contre 10% actuellement. Dans un communiqué, Lula a rappelé que le Brésil était un pays souverain, avec des institutions indépendantes, et de menacer à son tour d'appliquer une hausse des droits de douane sur les produits américains. Entre Trump et Lula, les relations ont toujours été exécrables. En témoigne le surnom de Lulu le dingue, dont le président américain a affublé son homologue, tandis que Lula ne manque pas une occasion de comparer Donald Trump à un empereur qui veut diriger le monde. Si le président américain mettait sa menace à exécution, les répercussions sur l'économie du Brésil seraient limitées. Seuls 12% de ses exportations ont en effet pour destination les États-Unis, contre 30% qui partent vers la Chine.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Quant aux températures, elles seront comprises entre 22 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Vicrobeck. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Denry pour le prochain journal de la rédaction.